Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court.
J'ai soulevé le même extrait. C'est drôle. Loïc Tassé est avec nous, politologue, chroniqueur au Journal de Montréal. Ça, c'est Éric Zemmour qui a tenu des rassemblements en fin de semaine.
Oui, c'est exactement ça. Bonjour, Benoît. Et il a parlé de reconquête de la France. Et je regardais Zemmour, puis on ne peut pas faire autrement que se demander dans quelle mesure il ressemble pas à Donald Trump. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent. C'est déjà son thème de campagne, la reconquête. Ben, c'est Take Back America, tu sais, c'est vraiment l'équivalent de ça pour la France. Il est anti-immigration exactement comme Donald Trump. Il est contre les médias, et ça c'est nouveau, mais c'est comme Donald Trump quand il dit il y a des médias qui veulent ma mort sociale. Il défend la liberté de parole à tout craint, comme Donald Trump. Remarque que là-dessus, il met aussi le doigt sur un problème, mais exactement comme Donald Trump, hein, mettait le doigt sur certains problèmes. Bon, il y a certaines ressemblances encore. Il est anti-européen, mais Donald Trump aussi était anti-européen, tu sais. Alors là, on gratte, on cherche les différences. Bon, on dit quand même, il n'est pas au service des riches comme tel. Il n'est pas pour les théories du ruissellement social, tu sais, où tu donnes tout aux riches, puis les riches vont redistribuer. Puis il n'est pas pour les baisses d'impôts, je pense. Pas encore, en tout cas pour les riches, mais puis il n'est pas anti-avortement non plus. Mais disons que le personnage semble être un personnage qui ressemble de plus en plus à Donald Trump.
Mais ça, non, mais tu sais, extrême droite, là, moi je comprends, là, il est controversé, mais quand, tu sais, je sais pas c'est quoi sa position sur les, par exemple, mariages de même sexe, entre personnes de même sexe, mais
je sais pas non plus.
S'il est pas contre l'avortement, ben je suis désolé, ça fait de lui un être moins, un peu moins d'extrême droite que ce qu'on propose. Tu sais, il va falloir être plus nuancé dans l'analyse aussi.
Et je suis d'accord avec toi, les catégories extrême droite, extrême gauche, pas sûr que ça s'applique tant que ça à Zemmour, et c'est exactement pour Donald Trump, tu sais, il y a des choses que Donald Trump disait, il mettait, quand il parlait de la Chine, par exemple, il mettait vraiment le doigt sur un bobo, sur un vrai problème. Ses solutions n'étaient pas nécessairement de bonnes solutions. Mm-hmm. Mais tu sais, quand Zemmour dit, écoutez, là, on a un problème avec l'immigration, on sait qu'il y a plus de 600 banlieues en France qui sont entre les mains des islamistes, puis la police rentre plus dans ces endroits-là.
Ouais.
Excuse-moi, mais c'est un vrai problème.
Ouais.
Puis il faut en parler en France. Mais c'est sûr qu'il met le doigt sur certains bobos. Mais quand il dit il faut que les musulmans changent de nom puis adoptent des noms français, que Mohamed devienne Joseph, là, je suis pas sûr que sa solution soit la bonne solution. Tu sais, ça devient un peu ridicule. Et c'est ça le problème de Zemmour en ce moment. Ça ressemble aussi à Trump. Il dénonce des choses, mais il y a pas de solution. Il y a pas de programme politique, Zemmour, en ce moment.
Mais je regardais ça, là, puis je me disais, aïe, 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 tu sais, ça a bardassé, là. Il y a des militants d'extrême gauche, là, qui sont allés lancer des chaises, puis aller brasser.
Oui, mais alors, ils ont fait quelque chose qu'on ne fait jamais, en politique. C'est-à-dire que, quand t'es un adversaire de quelqu'un, tu vas pas dans son assemblée pour bardasser son assemblée. Parce que si tu fais ça, ben t'as des militants à toi qui vont aller dans l'assemblée de ton adversaire pour la bardasser aussi. Ça, c'est un non-dit de la politique. Tu sais, tu peux manifester à l'extérieur, mais tu rentres pas dans son assemblée.
Mm-hmm.
Puis ça, les gens qui ont fait ça, qu'on soit d'accord ou non avec eux, ils ont violé une règle non écrite de la politique. Tu fais pas ça. Et d'ailleurs, il est passé pour une victime. Il y a quelqu'un qui l'a pris par le cou. Puis un médecin qui lui a diagnostiqué 9 jours d'arrêt. Enfin, on comprend pas très bien pourquoi il est monté sur scène après, mais tu sais, ça lui donne une image de victime. Tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas dans l'assemblée politique d'un adversaire pour faire du barda dans cette assemblée-là. Tu fais jamais ça. Mais eux, il y a des opposants de Zemmour qui ont fait ça.
Mais ça va brasser, hein? Ça va brasser, là.
J'aime.
Ah ouais, mais plus que Marine Le Pen, là, tu sais, provoquait des débats de société, tu sais, polarisation gauche-droite. Mais lui, là, Zemmour, là, c'est un juif algérien, sauf erreur.
Oui, en fait, c'est un berbère, plus précisément, d'origine berbère. Et c'est quelqu'un qui a une curieuse alliance en France. Les gens qui sont pour lui, ce sont les jeunes, parce qu'il y a un côté très frondeur, très effronté, puis ça plaît à un électorat plus jeune. Et en même temps, il y a beaucoup de lettres. C'est pas comme Donald Trump qui a pas de culture. Lui, il y a une vraie culture Zemmour, même si il y a des gens qui contestent ce qu'il dit, ça c'est une autre question. Mais il y a une vraie culture. Et ça plaît aux gens qui sont très vieille France. Donc, t'as les jeunes et une partie de l'élite vieille France qui sont derrière Zemmour. Et c'est ça, c'est particulier. Puis Zemmour, donc, on sait qu'avant de commencer, il était à 17%. Avant qu'il ait commencé sa commande, il est redescendu un petit peu, mais il est presque certain d'aller au deuxième tour, puis d'affronter Macron. Puis au deuxième tour contre Macron, les sondages étaient, les derniers sondages lui donnaient 49% des voix, 51% à Macron. C'est dans la marge d'erreur. Donc, c'est pas un adversaire qu'il faut ignorer. Il vient de commencer sa campagne électorale. Attention, oui, ça va brasser. Attention, il pourrait monter. Et attention, il ressemble beaucoup à Trump sur certains aspects. Il met comme Trump le doigt sur des problèmes qui sont sensibles en France. Et les autres, ses adversaires, ne veulent pas parler de ces problèmes-là, pour toutes sortes de raisons. Et c'est ça qui est le problème aussi. C'est pour ça que Trump est monté aux États-Unis et qu'il se fait élire. C'est pour ça que Macron, c'est pour ça que Zemmour pourrait peut-être avoir des chances. Mmh.
Bon, et Macron, tu dis, est la voix de la prostitution.
Oui, c'est un titre qui est un peu... c'est sûr que Macron, en ce moment, fait de la prostitution. Il faut bien le dire, là. Quand il sort en Arabie Saoudite et qu'il serre la main de Mohamed Ben Salman qui n'est-ce pas ce prince assassin qui a fait tuer, qui a fait découper en morceaux vivants Jamal Khashoggi, et il le fait parce qu'il a vendu de l'armement à l'Arabie Saoudite, et parce qu'il a vendu de l'armement à l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, il a accepté d'aller serrer la main de ce dictateur sanguinaire. Il n'y a aucun leader occidental qui l'a fait, aucun. Mais lui a accepté de le faire. Donc,
il n'est pas le seul, non?
Oui, il est le seul leader occidental à s'être rendu en Arabie Saoudite pour serrer la main de Mohamed Ben Salman.
C'est une question de temps. Tout le monde va baiser, va embrasser la bague de l'Arabie Saoudite.
En plus, il a dit des choses qui sont pas vraies, puis il y en a beaucoup qui disent ça, qui disent « Oui, mais l'Arabie Saoudite aide les pays occidentaux dans leur lutte contre le terrorisme. » Puis moi, je veux dire, à un moment donné, là, ça suffit, là, ce gros mensonge-là, c'est faux. On sait que quelque chose comme 15 des 19 pirates de l'air qui donnent des attentats du 11 septembre étaient des gens qui venaient d'Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite finance et fait ouvrir des mosquées à travers le monde depuis des dizaines d'années, et que dans ces mosquées, on enseigne une doctrine politico-religieuse antidémocratique. C'est pas l'Arabie Saoudite qui est un allié, c'est un ennemi. Alors, quand tu vas serrer la main d'un ennemi, quand tu lui vends d'armement sophistiqué simplement parce qu'il peut te payer, ben moi j'appelle ça de la prostitution. Toi, tu peux appeler ça d'un autre nom. J'appelle ça par son nom. Puis ça, c'est ça que je dis. C'est le titre de ma chronique ce matin, la putain exigeante, parce qu'elle a des tarifs très très élevés, évidemment. Mais c'est ça. Là, c'est un comportement malheureusement de prostituée.
Et la menace de la guerre qui veille.
En Ukraine. Je ne sais pas si tu as entendu, mais le gouvernement ukrainien demande maintenant au Canada, à l'Angleterre et aux États-Unis d'envoyer des soldats en Ukraine en prévision d'une guerre contre la Russie. Puis là, un instant, là, c'est parce qu'on a Chrystia Freeland, qui est vice-première ministre, qui a des positions extrêmes contre la Russie et qui est excessivement pro-ukrainienne. Là, tu dis, attends un instant, là, est-ce qu'on veut que des enfants, tu veux, toi, que tes enfants aillent se battre en Ukraine contre les Russes? Moi, je suis pas sûr de ça, là. Puis, attention, c'est parce que l'Ukraine, la ligne rouge, là, c'est que l'Ukraine veut entrer à l'intérieur de l'OTAN. Mais ça n'a pas de sens, du point de vue russe, que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est comme si le Canada ou le Mexique formaient une alliance militaire avec la Chine. C'est évident que les États-Unis ne laisseraient pas faire ça. Ben, de la même façon, la Russie ne peut pas laisser l'Ukraine entrer dans l'OTAN parce que ça rapproche beaucoup trop l'OTAN du cœur de toutes les installations de sécurité de la Russie. C'est une évidence incroyable.
Ouais, c'est pas
tant
fini.
Que ça
hein.
bouge pas, ben, non, c'est pas fini parce que l'Ukraine insiste, parce que l'Ukraine... Les Russes ont massé leurs troupes à la frontière ukrainienne, il y aurait entre 100 et 200 000 hommes qui seraient là. Les Russes disent que ce sont de simples exercices, en tout cas, tant que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais l'Ukraine a aussi massé 100 000 hommes à la frontière russe. On craint qu'il y ait des incidents frontaliers et qu'il y ait une escalade. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Moi, j'espère qu'il ne se passera rien. Puis rationnellement, il ne devrait rien se passer.
Mais la question que tu poses,
c'est un peu inquiétant.
Qu'est-ce que les Canadiens vont aller faire dans ce conflit?
On n'a rien à faire là, pour le moment. On n'a rien à faire là. Et
qu'est-ce qu'on a gagné de s'impliquer?
On n'a rien à gagner pour le moment. On n'a vraiment rien à gagner là-dedans. Et si on compte, au contraire, le Canada a beaucoup de dossiers communs à gérer avec la Russie, entre autres tout ce qui est arctique, dossier arctique, et c'est pas du tout dans l'intérêt du Canada, je crois, pour le moment, de faire ça, d'aller dans ce conflit-là. Cela étant dit, si jamais la Russie envahissait l'Ukraine, oui, je trouverais normal que le Canada sanctionne économiquement la Russie. Et je trouverais normal qu'en sous-main, le Canada aide les Ukrainiens à se défaire de l'envahisseur russe. Mais ça veut dire une guerre sur 20 ans ou quelque chose comme ça. Et pour cette raison-là, d'ailleurs, je suis pas sûr du tout que les Russes soient intéressés à rentrer en Ukraine.
Hey, on n'a pas besoin de ça,
là. C'est ça, le lundi des bonnes nouvelles internationales.
Bon, et tout va bien avec Joe Biden, là, pour l'instant, tout est tranquille?
Tout est tranquille, ils rentrent tranquillement, ils digèrent sa dinde.
C'est ça. Oui, ça va y prendre un bout de temps. Bon,
non, parfait. Ça va y prendre un bout de temps.
Hey, c'est-tu moi où j'ai rêvé, où j'ai vu Trump en entrevue à Fox News hier soir?
Ah, j'ai pas eu le temps de voir ça hier soir.
Ah, je l'ai pas, écouté. Je l'ai pas écouté. J'ai eu comme un frisson, là. Je disais, ah non, ça se peut pas.
Mais il a mis $1 milliard de côté pour son entreprise. TweetFace, ça va s'appeler, je pense.
OK.
Non, c'est une blague, TweetFace. Je pense pas que ce soit le nom idéal pour
TweetFace, les deux. Les deux ensemble. Non, mais il y avait ouvert un réseau.
Un média. Ça a plus ou moins fonctionné, mais on a su ces derniers jours qu'il avait réussi à accumuler $1 milliard d'investissement. Et tu peux être sûr qu'il va ouvrir ça. Puis,
mais Alex,
ça a fonctionné.
Alexandre m'a dit c'est Truth Social?
Social, son vrai nom.
Ouais.
Moi, j'aimais bien, je préférais TweetFace.
On travaille là-dessus. TweetFace, ça n'a pas d'allure. Mais on va se reprendre. On se reparle de ça lundi prochain. Merci, Loïc.
Salut.